Open your eyes. Wake up, Link.
Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Nous sommes en mai et ça va faire 37 ans que Bob Marley nous a quittés et que Giscard n'est plus à l'Elysée. Mais malgré tout ça, vous écoutez, papa, à quoi tu joues ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papa, à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture vidéoludique. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ?
Bah écoute, je vais bien, ça y est, je vais quand même parler de météo, la neige a disparu de par chez nous, on a enfin le printemps un peu pluvieux, mais ça y est, on n'a plus de température négative et ça fait du bien.
Il est plus vieux que qui ton printemps ?
De plein mal de personnes. Mais non, ça fait du bien. Ça, tu peux encore sortir. C'est mob. C'est la vie reprend son cours à Montréal. Tout le monde sort.
Tu veux vraiment parler de météo ? On a eu 3 ou 4 jours de chaleur où on était presque en été. On a eu jusqu'à 26-28 degrés. Et là, on est retombé bien bas. On va passer au jeu du mois. Ce mois-ci, je vais vous parler de Dead Cells. Au commencement de Dead Cells, il y a la mort. Un amas de cellules prend possession d'un corps sans tête, en faisant office justement de tête, et se retrouve dans une prison un peu spéciale. Les blocs de cette prison sont en mouvement constant, et il faudra se frayer un chemin pour sortir de là. Autant vous prévenir d'entrée, vous allez très vite perdre votre première partie. Pour vous apercevoir que votre amas cellulaire va se retrouver jeté aux ordures pour trouver un nouveau corps à contrôler et reprendre votre périple dès le départ. Et comme la prison bouge constamment, chaque run sera une prison différente à arpenter.
On a une annonce.
Voilà
à
le
faire.
Petit pain aux pépites de chocolat du jeu.
Le et quoi de mieux que de le faire dans
donc,
des corps
oui, on ne joue pas à Dead Cells pour son scénario, voilà. On joue à Dead Cells parce que c'est un bon
no
jeu
life.
De plateforme. Dead Cells, c'est deux emplacements d'armes ou boucliers, deux emplacements d'outils, une roulade
ça veut dire déjà que j'ai
et un double saut.
Ça veut dire ensuite que
réalisé en esthétique pixel art,
que No Life va aller
bel effet,
vers Opéra,
le jeu répond au doigt et à l'œil. On rencontre des ennemis,
grands locaux,
à connaître et à combattre
animaux,
au prix d'innombrables morts. Chaque section de la prison propose
faire,
d'améliorer son personnage en dépensant
de
des cellules
c'est-à-dire
amassées
que oui, au dernier
au
étage,
de la
on aura
section.
Nos locaux
et
pour pouvoir
au
faire
bout
du
de quelques sections, un boss viendra ponctuer la progression. Un boss bien trop difficile
un
à battre, évidemment.
Et on aura d'autres choses en plus.
Ce dont
c'est-à-dire
on ne se rend pas compte au début, c'est que le jeu regorge de secrets et d'interactions. Et ce qu'on prenait pour une porte appartenant
au
décor en début d'aventure se révèle être une vraie porte avec laquelle on peut vraiment interagir.
On pourra enfin se croiser.
Au cours de nos essais plus ou moins infructueux, on récupérera des items qui donneront une amélioration permanente à notre personnage et ainsi débloqueront des parties de la prison jusqu'alors inaccessibles.
On va avoir
les armes sont innombrables et combinent parfois des effets surprenants. Car
no Life
plus elles sont
enfin
récupérées loin dans l'aventure, plus elles sont puissantes et cumulent des effets aléatoires.
On aura
ce
peut-être
qui
même
fait que certaines
ça,
armes,
je un petit peu,
armes pardon, a priori un peu nulles, hein, comme
no
les sandales
e-sport.
Du Spartiate,
et on aura
en fait qu'un vulgaire coup de pied, peuvent se révéler très utiles, couplés à un piège jaloux subtilement placé derrière l'ennemi qui se retrouve propulsé donc sur ce piège. Ou alors,
une salle de spectacle, ça sera au sous-sol, mais ça c'est pas pour tout de suite.
À une grenade incendiaire sera aussi.
Les gens No Life, et moi y compris,
bref,
on fera des dédicaces.
À débloquer, il y en a à foison. Tout ce qu'on peut débloquer,
voir,
d'ailleurs,
exemple,
se collectera dans les jars
tout ça,
en verre, qui ne s'appellent pas
dans l'année à venir.
Et que l'on peut voir
donc,
au début de
moi,
chaque
je vous donne
run.
Rendez-vous
Une dimension temporelle vient s'ajouter au jeu, car si on peut être complétiste comme un certain Arnaud, et donc nettoyer méthodiquement chaque salle des ennemis pour récupérer les cellules et acheter des améliorations en fin de zone, cela ne vous permettra pas d'ouvrir les portes temporelles qui ne peuvent être ouvertes que si vous arrivez devant avant un certain temps au chrono. Derrière ces portes, vous trouverez de nombreuses cellules, des cellules pour payer vos améliorations, mais aussi de l'or et des améliorations de stats de votre personnage. C'est un jeu hyper simple à prendre en main, mais d'une complexité non négligeable qui vous demandera un peu de patience pour pouvoir maîtriser un peu le truc. D'ordinaire, je ne conseillerais pas une telle production, mais le truc c'est que j'ai trouvé le format idéal pour y jouer. Vous prenez un Shadow, un mobile et une manette, et vous avez le jeu de plateforme parfait en mobilité. Quand on coupe, le jeu, il reprend pile à l'endroit où l'on l'avait laissé. Et le format petit écran n'est pas une gêne, puisque le pixel art s'adapte très bien à ce format. Selon que vous soyez doué ou pas, la partie durera entre 5 et 40 minutes, voire plus selon votre style de jeu, mais j'ai envie de dire que peu importe, puisque dans la configuration Shadow Plus mobile, on le sort quand on a 10 ou 15 minutes devant soi, et hop, c'est parti. Le jeu est toujours en accès anticipé, il coûte une vingtaine d'euros sur Steam, et même en étant en Early Access, Dead Cells aura de quoi vous résister pendant un long moment, et vous n'êtes pas prêt de débloquer et de découvrir tout ce que le jeu a à vous offrir en claquant des doigts. Parce que j'ai pas parlé non plus des défis, des failles, du classement mondial, ce qui moi m'intéresse pas, mais en challengera sûrement plus d'un. Voilà, ça s'appelle Dead Cells, c'est produit et développé par Motion Twin, un studio français spécialisé dans les jeux mobiles. Il serait étonnant d'ailleurs qu'à la sortie de l'accès anticipé, le jeu ne soit pas porté sur mobile tellement le format s'y prête parfaitement. En attendant, ça ne se joue que sur Windows. Voilà, c'était court, mais comme chaque run de Dead Cells, c'était bon.
Pas ma foi, il a l'air pas mal en tout cas. Je regarde la vidéo en même temps, c'est vrai qu'il est, même s'il est en pixel art, il a l'air d'être très dynamique.
Ouais, en fait, il est. Alors, je n'ai pas la confirmation, mais je pense qu'il est en 3D et sur lequel il y a un travail de pixel art qui est refait dessus parce que les lumières sont dynamiques, elles sont vraiment faites comme si c'était en 3D et c'est péchu, c'est. Quand tu tapes avec une grosse arme, tu sens que t'as une grosse arme. Quand t'as des petites armes rapides, tu sens le côté furtif. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Et on s'en lasse pas, c'est jamais la même partie.
C'est ça, mais par contre, t'as combien de vie? Parce que t'as moyen de récupérer de la vie quand même ou pas?
À la fin de chaque niveau, donc tu récupères ta vie, parce qu'il y a un mec qui te fait récupérer toute ta vie, qui remplit ta fiole. Et donc ta fiole, tu peux l'utiliser une, deux ou trois fois selon comment tu as amélioré tes objets au cours d'une section. Et quand tu passes à la section d'après, tu remplis ta fiole et tu peux réutiliser une, deux ou trois fois selon comment tu es équipé. Il n'empêche que je meurs souvent avant d'avoir pu utiliser ma fiole.
C'est quand même... il y a de l'ennemi un peu partout quand même. Hein, donc pour réussir à esquiver tous les trucs qu'on te balance...
Ça
a l'air simple. Hein.
Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Il faut avoir du skill dans la vie.
C'est ça, il faut...
Bon, alors c'était une petite mise en bouche par rapport à ce que toi, tu vas... nous proposer, puisqu'il s'agit d'un gros morceau, un jeu à peine connu, Zelda Breath of the Wild.
Oui, alors moi j'ai je propose Zelda Breath of the Wild, donc ça fait un bon mois et demi qu'on est dessus. On a dû jouer une trentaine d'heures, je dirais. Dessus, mon fils en a joué un petit peu moins de son côté. Donc, par quoi commencer sur Zelda Breath of the Wild ? Il y a tant à en dire.
Moi, j'aime pas Zelda en 3D.
T'aimes pas Zelda en 3D ? Je vais essayer de te rassurer parce qu'il est quand même globalement bon, voire très bon. Et j'ai bien choisi mes mots parce que on me l'a vendu comme extraordinaire. Et il y a en effet des trucs qui sont extraordinaires. Il est bien conçu sur énormément de choses, mais je nuancerai ça par la suite parce que je trouve qu'il a quand même quelques petits défauts qui font que il est pas parfait à mon sens. Cela dit, commençons par les bons côtés des choses. Ils y foisonnent de très bonnes idées. Ils ont réussi, je pense, à récupérer, parce que tout n'est pas totalement innovant quand même. On sent, ils se sont bien inspirés de ce qui avait pu être fait par ailleurs. Et malgré tout, ils ont réussi à adapter ça sur Zelda et je trouvais que c'était vraiment chouette. Je commencerai déjà la première chose par la tablette qu'on récupère au début du jeu. Parce que dès le début du jeu, en fait, donc on sort, on se réveille, on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit un vieux bonhomme, il nous propose d'aller chercher dans des sanctuaires, ce qu'il peut y avoir dedans. Et on apprend à jouer un petit peu comme ça. Donc on apprend finalement à récupérer des pouvoirs et ces pouvoirs vont finalement nous accompagner tout du long. Et donc, on a comme une tablette, hein, comme les nôtres, quoi. Sauf que cette tablette, elle peut permettre d'avoir des pouvoirs et elle peut se synchroniser avec des éléments du jeu. On va avoir à notre disposition, on va récupérer des bombes, donc carrées ou rondes, et ça aura une importance selon si on prend une ronde qui va rouler hein, nécessairement, ou une carrée qui, du fait, ne bougera pas. On va avoir ce qu'ils appellent le Polaris, qui est en fait un genre d'aimant qui va permettre de manipuler des blocs de fer et d'acier. Donc, ça va permettre de récupérer des armes si elles sont loin, déplacer des blocs, ce genre de choses. On va avoir le Kinetis, qui va nous permettre de figer dans le temps certains objets. Et avec cette chose, je trouve très intéressant, la possibilité de taper cet objet pour lui imprimer une inertie dans un sens. Ce qui fait qu'en fait, quand le temps va finir par revenir en cours sur cet objet, ben en fait, il va avoir gagné cette inertie. Il va pouvoir aller se déplacer dans le sens où on l'aura frappé. On va avoir, alors je ne me rappelle plus exactement du terme, mais c'est typiquement la possibilité de créer des blocs de glace à partir du moment où il y aura un petit peu d'eau, on va pouvoir créer des blocs de glace sur lesquels on pourra monter. Et enfin, on va avoir un appareil photo qui va nous permettre de prendre en photo soit des ennemis, soit des objets, ce genre de choses. Et par la suite, quand on voudra rechercher des ennemis, des objets ou des insectes, ce genre de choses, on va pouvoir le mettre en détection de cette tablette qui va jouer comme détecteur et va nous permettre de retrouver, de pouvoir les chercher plus facilement. Donc ça, c'est les pouvoirs de base qu'on récupère initialement. Et l'appareil photo, on le récupère un peu après, mais franchement, pas loin. Et donc, à partir de là, on apprend qu'il faut sauver Zelda, hein, pour changer. On ne sait pas trop si elle est encore en vie, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais il faut, gros, sauver Hyrule. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on apprend au fur et à mesure du scénario. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, on se réveille, amnésique, 100 ans après une grande bataille qu'on aurait perdue, où Ganon a pris le pouvoir un peu sur Terre, a amené des monstres, etc. Sauf que Ganon, il est emprisonné sur le château d'Hyrule, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'en défaire, il est bloqué à cet endroit. Donc, dès le départ, si on veut, on peut y aller. Alors, bonne chance, parce que concrètement, les monstres autour, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'équipement, on n'a rien, on n'a pas de cœur, et c'est concrètement une mort assurée, mais on pourrait y aller dès le départ. On aperçoit par des biais de quête que il y a des créatures divines. On avait des copains à l'époque. On s'aperçoit qu'en fait, on est le héros d'il y a 100 ans qui s'est pris une rouste et qu'on a endormi en espérant que à son réveil, il serait plus fort, plus costaud. Le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui connaissent donc Link, sauf que Link, lui, il n'est pas vraiment au courant de tout. Donc, on redécouvre au fur et à mesure des quêtes, de l'histoire, des personnages qu'on rencontre. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on en est? Et qu'est-ce qu'on a à faire au final? Donc je trouve que c'est bien apporté. Le scénario est bien fait. On découvre le passé au fur et à mesure. Il y a des quêtes qui sont, je trouve, vraiment bien faites. Ça s'appelle les quêtes du souvenir, où en fait on va avoir, en même temps qu'on nous donne l'appareil photo, on va avoir finalement des photos ou d'avant. Il y a 100 ans, et il faut retrouver ces endroits spécifiques à partir d'une photo. Sachant que le monde est immense, bah c'est pas si simple, parce qu'on suppose certains endroits, donc il faut aller trouver les régions où ces photos auraient été prises en fonction des éléments du décor, trouver l'endroit exact où a été prise la photo, et finalement ça permet de débloquer un souvenir, et de comprendre finalement ce qui s'est passé, parce que c'est genre soudainement... Link va se rappeler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on apprend au fur et à mesure tout ça. On se rend compte que finalement il y a quatre créatures divines à aller récupérer. Donc ces quatre créatures sont finalement des donjons. C'est en gros ce qu'on était censé avoir de notre côté pour combattre Ganon, mais que finalement Ganon a corrompu. Et donc ça finit par être des donjons. Donc plus ou moins durs. Cela dit, ils sont intelligemment faits. Enfin, ils sont faits de manière intelligente, parce qu'on parle vraiment de créatures, en gros, de machines dont on prend le contrôle. Et au final, on va déplacer les donjons, certaines pièces. Donc, on va jouer avec l'architecture du donjon en lui-même pour pouvoir progresser. L'objectif étant finalement à chaque fois de récupérer 5. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, cinq terminaux, et puis une fois chacun réactivé, et ben on va avoir un boss qui va arriver. Et boss, c'est là où j'en ai plus ou moins simple. Il y en a où il est plutôt simple, un ou qui est très coriace, notamment celui de la foudre. Donc voilà. Donc c'est bien fait, les bonnes idées. C'est pas des donjons à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est pas gavé de monstres, il y en a un petit peu. C'est vraiment plus sur de la réflexion. Comment je fais pour déplacer le donjon pour me déplacer? Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, Zelda, et celui-ci, je trouve, à mon sens, en dehors des aspects de combat, est vraiment axé sur de la réflexion et des toutes petites énigmes. Et j'en viens au sanctuaire. Parce qu'au final, on a énormément de sanctuaires. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y en avait 120 des sanctuaires répartis partout dans le monde. Et chaque sanctuaire, en fait, va donner un emblème. C'est, au bout de 4 emblèmes, on va pouvoir choisir soit un cœur, soit une jauge d'endurance. Et ces sanctuaires, c'est justement là ce qui passe en ce moment sur la vidéo que tu as en train de passer, eh bien, c'est une énigme. Concrètement, il va falloir réussir à aller récupérer un moine au bout. Et c'est une épreuve. Alors, il y a des épreuves qui sont juste des épreuves de combat, concrètement. Donc, on va avoir un genre d'automate qu'il va falloir combattre. Et d'autres qui vont être beaucoup plus pointus au niveau énigme. Alors, bizarrement, il y en a qui sont très simples, d'autres que je trouve très compliqués. Alors, j'imagine que ça va être la sensibilité de chacun. Mais concrètement, l'idée va être toujours d'utiliser les 5 pouvoirs que je vous ai décrits au départ, les combiner ou pas. Et finalement de réfléchir, se poser la question, mais a priori il faut que je mette une boule là-bas, donc comment je fais pour passer la boule à cet endroit-là pour avancer. On aperçoit que finalement la Switch et les Joy-Con sont d'une sensibilité qui c'est quand même assez impressionnante, puisqu'il va y avoir des passages où on va jouer je sais pas comment ça s'appelle ce jeu là, où on a un carré en bois et puis une bille qu'on vient faire déplacer, il faut éviter les trous.
Oh bah, et puis arriver labyrinthe.
Un genre de labyrinthe, ça. Eh bien, on va avoir la même chose, mais dans le jeu. Et finalement, c'est le Joy-Con qui va faire qu'on va se déplacer et qu'on va jouer l'équilibre pour déplacer la boule sans tomber dans les trous, sans la faire perdre, etc. Et c'est vraiment très sensible. Et c'est... beaucoup, c'est vraiment bien fait. Il faut reconnaître ça. Il y a une foison de quêtes annexes que on comprend pas forcément, parce que je trouve que de temps en temps il manque un peu de description quant à ce qu'il faut faire. On a la possibilité via la carte de cibler l'endroit de la quête, mais il va y avoir des quêtes où justement il va falloir aller découvrir un secret et on n'est pas forcément beaucoup plus avancé de ce que c'est. Donc c'est là où il y a tout l'intérêt d'avoir un copilote qui peut éventuellement aller voir des solutions de temps en temps quand on en conge.
Tu es faible.
Mais donc voilà, c'est vrai qu'il y a des choses si on devait tout faire tout seul, ça peut prendre énormément de temps, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment découvrir ça. Je pense notamment aux quêtes secondaires. Les quêtes principales sont plus simples dans leur description. Cela dit, y a une certaine difficulté non négligeable. Typiquement, donc on va, les donjons sont répartis dans certaines zones. Alors, c'est là aussi que Zelda a fait... le jeu est extraordinaire parce que le monde est immense. Et ce monde, en plus, est donc réparti en zones climatiques différentes. On va avoir des zones désertiques, des zones polaires, des zones humides, etc. Et finalement, eh bien, on va avoir cette jauge de température. Et quand il va faire trop froid et qu'on n'est pas habillé, en conséquence, on risque de perdre des points des cœurs. Et c'est exactement vrai dans l'inverse, quand il fait trop chaud et qu'on n'est pas équipé comme il faut. Donc, il faut aussi aller récupérer l'équipement. On va récupérer des potions. Alors, je vais passer sur l'aspect cuisine, parce qu'il y en a tellement à dire, mais on peut vraiment, en résumé, on peut faire combiner des ingrédients qu'on va looter pour faire des potions, pour faire des repas, pour faire des plats qui vont ramener plus ou moins de cœur, qui vont plus ou moins nous protéger contre la foudre, l'électricité, la chaleur, etc. Il y a vraiment énormément de choses à faire et je pense que le temps de jeu, si on voulait tout faire, est vraiment immense. Cela dit, je le trouve malgré tout un petit peu vide. C'est-à-dire qu'on va avoir une parabole qui va nous permettre de nous déplacer rapidement, mais il va y avoir des zones où on va avoir des genres de... Je ne veux pas dire des petits donjons, mais en gros des genres de... campement gobelin ou moblin où on va avoir des gens des ennemis à tuer. Une fois qu'on les aura tous tués, on va débloquer un coffre pour s'équiper notamment. Mais il y a énormément d'espace vide. Et alors oui, c'est Breath of the Wild, c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut le prendre, c'est une balade. Et le jeu est très joli graphiquement, je dis pas. Alors je sais pas exactement la technique que c'est, parce que pour le moment je pensais à cel shading, mais je ne suis pas certain.
Il y a un peu, mais pour les personnages, en tout cas.
Ouais, mais du coup, on se retrouve quand même avec une immensité, et tout ce qu'on va voir, on pourrait y avoir accès. Mmh. Donc, c'est quand même immense, et on va avoir cette parabole pour se déplacer plus facilement. Cela dit, le monde est quand même pas mal vide, et quand on va vouloir aller d'un espace d'un endroit à l'autre, beaucoup courir, on peut éventuellement avoir un cheval, hein, ça c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut réussir à récupérer, alors un cheval je trouve que c'est très intéressant aussi, c'est que plutôt que d'aller l'acheter etc, on va le capturer, on va pouvoir après essayer de le maîtriser, et puis une fois qu'on ira à un relais, il nous appartiendra, on pourra y faire appel, mais il y a quand même énormément d'espace vide, et... quand on veut aller par exemple dans une direction qu'on n'a pas découverte, eh bien, il va y avoir énormément de chemin à parcourir. Et je trouve que c'est plus ou moins réussi. C'est-à-dire que, on va voir des ennemis, etc. On va essayer de chercher par où il faut passer. Mais c'est long. En règle générale, je trouve, et notamment quand on se aperçoit que c'est derrière la butte, donc il va falloir grimper. Il faut grimper, donc en effet, il peut grimper partout, donc Mais en même temps, on a une jauge d'endurance, donc si cette jauge d'endurance n'est pas suffisamment élevée, on va finir par tomber et mourir éventuellement. donc il va falloir faire attention à récupérer des cœurs, mais aussi récupérer de l'endurance. Au fur et à mesure qu'on découvre des sanctuaires, on peut marquer les endroits. Alors, on peut marquer 5 genres de colonnes de lumière, notamment pour les sanctuaires, quand on les voit au loin, et on va les marquer, ce qui fait que ça nous permet de diriger vers là. Enfin, marquer la carte avec différents outils pour au cas où on aura envie de revenir. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire. Il va falloir faire attention à son équipement. C'est donc les épées, les boucliers, l'arc qui sont destructibles. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'utilisations, ils vont s'auto-détruire. Et donc, ça nous oblige à en récupérer au fur et à mesure. Alors, j'ai cru comprendre aussi, mais je ne l'ai pas encore récupéré, qu'il y a une épée qui, elle, est indestructible. Mais il faut encore retrouver la bonne zone où elle est. Et j'ai cru comprendre qu'il fallait avoir bien avancé dans le jeu, notamment au niveau du nombre de cœurs. Mais donc voilà, donc il va falloir toujours faire attention à avoir des outils sur soi. Nager peut être aussi très lent. C'est très désagréable, je trouvais au début de nager. C'est vraiment long. Enfin, je veux dire, pour nager, pas juste traverser une rivière au début, et c'est une horreur parce que déjà l'endurance descend rapidement. Et puis, ça, tu nages très lentement. Mmh. Après, on va récupérer des équipements, notamment des équipements qui vont permettre de nager plus vite, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est justement au niveau des équipements. C'est que, par exemple, il y a une des zones où on va avoir une créature divine est une zone volcanique. Et c'est là où c'est pas simple. C'est que il faut bien voir, réussir à passer par là où il faut pour avoir éventuellement la possibilité de faire des potions pour se protéger contre le feu, parce que pour pouvoir se protéger dans le feu dans cette zone, il faut avoir l'équipement qu'il faut. Et pour avoir l'équipement, il faut aller dans la zone. Et donc, tu te retrouves un peu comme une course contre la montre, à dire, mais il faut que j'arrive par là, donc il faut mm-hmm. que je cours, il faut que je me dépêche, parce que je suis en train de brûler de partout. Il faut que j'arrive à aller acheter l'équipement, donc tu t'aperçois que c'est 600 rubis et tu les as pas, tu fais, ah, je vais mourir en feu. Alors, tu as une autre quête qu'il faut récupérer, mais il faut encore savoir qu'il y a une quête, il faut réussir à récupérer ça. Et ça fait un peu Il y a certains moments qui sont vraiment pas simple. Donc, encore une fois, moi, j'ai un copilote qui permet de m'aider, etc. Mais je vois mon fils dire, mais je comprends pas comment on fait, donc je suis obligé de lui expliquer. Et c'est pas si évident. Mmh. Donc, il y a aussi un degré de difficulté qui, je trouve, non négligeable. Ne serait-ce que parce que, eh bien, il faut anticiper, entre guillemets, sur des choses ou être assez réactif sans trop savoir ce qu'il faut faire. Et donc, j'imagine que il faut sans aide, ça nécessite de mourir plusieurs fois et ouais. finalement de comprendre comment s'y prendre, quoi. Et je pense que ça doit avoir un peu un côté frustrant, parce que le côté énigme, je le trouve déjà pas mal présent, notamment via tout ce qui est sanctuaire et donjon. Mmh. Donc je trouve que sur certains aspects, je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus sympas. Mais bon, après, je pense que c'est aussi selon les personnes. Mmh. Le degré de difficulté que les gens cherchent, quoi. Alors après, au niveau de la carte, on va avoir des tours, donc plusieurs tours, toujours ce côté d'endurance. Donc certaines vont être libres, on va pouvoir grimper facilement. D'autres vont être entourées d'ennemis, pas simple. D'autres vont entourées d'épines. D'autres finalement pour y aller qu'en paravoile, etc. Et à chaque fois qu'on arrive sur ces tours, on va débloquer en synchronisant avec la tablette finalement l'espace et la carte. On va dévoiler la carte, ce qui est quand même nécessaire pour pas dire moins. Voilà, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Donc il y a les donjons, les boss. Je reviens sur un monde qui est vraiment gigantesque. Donc ça, c'est pour le côté que je trouvais vraiment vraiment bien. Alors, j'ai déjà un peu nuancé mon propos, mais moi, ce qui me gêne par ailleurs, c'est les aspects du combat. Typiquement, on appuie sur un bouton, on peut verrouiller, et puis à partir du moment où on a verrouillé l'ennemi, on va pouvoir faire quelques esquives. Mais ces esquives sont pas... Alors, pour le coup, elles sont proportionnées, mais quand je me rappelle jouer à Aloy et faire des esquives, on avait une esquive qui était une vraie esquive. Ouais. Là, en gros, on se déplace sur le côté, quoi.
Ouais.
Et je trouve que de temps en temps, les mécanismes de combat, surtout sur les monstres compliqués, sont pas si simples. Je trouve que ça manque un petit peu de maniabilité et je trouve ça un peu rigide. Ça me faisait penser un peu à l'ancien Zelda qu'il y avait sur Wii et sur une certaine rigidité de saut, etc., que je trouvais pas ultra naturel, quoi. Et il y avait ces aspects-là qui me gênent un peu. Et puis, je reviens sur le graphisme. En fait, le graphisme de loin est époustouflant. Franchement, on a un monde ouvert où on voit relativement loin. On voit le climat change. Il peut pleuvoir, faire beau, avoir du vent, avoir de l'orage, des éclairs, etc. Mmh. D'ailleurs, les éclairs dangereux en passant, parce que si on est trop près de la foudre, tout l'équipement qu'on va avoir électrique, enfin oui, métallique, métallique oui. va s'électriser. Et si on s'en débarrasse pas rapidement, eh bien, on risque tout simplement de se prendre un choc électrique. Ouais. Donc, et perdre plein de cœur. Cela dit, donc là, il y a des bonnes idées. Mais cela dit, je reviens sur la texture. Typiquement, de loin, un rocher ou un pan montagneux va paraître magnifique. Mais quand on va se mettre à le grimper, ouais. eh ben, le rocher, il a commencé à être sacrément dégueulasse, je trouve. Je suis désolé, mais quand je compare ça à un Uncharted ou un Horizon Zero Dawn, ouais, ça a beau être du graphique, je trouve que c'est un peu dégueu, quoi. Ouais. Et quand tu penses à un autre, je pensais à un autre aussi, à un autre moment, vraiment, t'as des genres de portiques en bois par rapport aux zones, et de loin, t'as beau, t'as l'impression qu'ils sont gravés, etc. Puis quand tu te mets à grimper dessus, parce que pour X raisons, tu t'aperçois que c'est pas si beau, quoi. Mmh. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pu faire un effort de ce côté-là, et... Et c'est là où je veux en venir. Moi, on m'a vendu un jeu qui était extraordinaire, époustouflant, meilleur jeu de l'année. Ouais. Il est beau, il est chaud, il est tout ce qu'il faut. Et puis, bah. Non. Oui, mais pas assez. Enfin, du coup, c'est peut-être que j'en attendais trop. Parce que, ouais. encore une fois, hein, il est très bon. Mais. Ce que je disais avec une connaissance commune, trop de hype, tu l'as hype. Ouais. Et je conclurai un peu là-dessus, c'est que c'est un très très bon jeu, je dirais pas le contraire, mais à force de le vendre et de le survendre, bah de fait, moi j'en attendais plus. Notamment au niveau maniabilité, jouabilité, scénario, parce que oui, il y a les sanctuaires, oui, il y a les donjons, mais je m'attendais à avoir un peu plus de donjons. Ouais. Je m'attendais à avoir un monde qui soit peut-être pas aussi grand, mais plus rempli. Mmh. Tu vois,
je vais te poser quelques questions. Moi, sur les trucs qui me chiffonnent. Déjà, tu parles, il y a plein de trucs à faire, machin, il y a 120 temples, t'en as pas marre au bout d'un moment ?
Alors, pour les temples, non, parce que ils ont. Alors, pour l'instant, j'en ai pas vu un qui ressemblait à l'autre. Enfin, sauf ceux où tu combats juste un automate. Ouais. Mais sinon, ils ont vraiment plongé au niveau de l'énigme. Et donc, d'ailleurs, quand je repense aux parties où mon fils joue, tu sais, je vais lui donner des coups de main. Parce que t'as vraiment des trucs qui sont pas si simples. Il y en a où il les trouve immédiatement.
Ouais.
D'autres où tu vois que je sens un peu galérer. Donc, je lui dis, bah, regarde, est-ce que t'as pensé à utiliser ça ? Et puis, ah oui, machin, etc. Donc, le côté sanctuaire est intéressant dans le sens énigme. C'est vraiment comme un jeu énigme, quoi, un peu comme un puzzle game. Quoi.
Ouais.
Et donc on a ce côté puzzle game que je trouve très sympa, mais chaque sanctuaire, ils sont bien répartis, donc il faut déjà y aller. Et en fait, ce que je reproche à ce jeu, c'est le temps nécessaire à chaque fois
d'aller
d'un point à l'autre. Alors il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont
aussi, ce genre de choses.
Ils ont t'as le moyen de te téléporter. Donc, dès que t'as découvert un sanctuaire, dès que t'as découvert une... Alors, ils ont placé des sanctuaires à côté des villes ou à côté des relais. Un donjon, tu peux t'y téléporter.
Gentil,
donc, tu peux
à
te téléporter.
À côté des relais, c'est gentil pour aller chercher les colis, c'est bien.
C'est ça. Mais, donc, pour te déplacer rapidement dans une autre zone, c'est jouable. Mais, cela dit, quand tu découvres une nouvelle carte, pas vraiment, on te force à faire du kilomètre et du kilomètre et du kilomètre. Et je peux pas m'empêcher de me trouver un moment où tu es en train de courir, etc. Et puis là, tu es en plein orage et tu fais putain, c'est chiant, je vais me retrouver des orages, donc est-ce que je me téléporte pas ailleurs en attendant que l'orage se passe ? Et toi, il y a des. Je trouve qu'il y a des trucs qui durcissent la difficulté. Alors, encore une fois, hein, ça n'est qu'on oublie mon avis. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais c'est plus réel. J'imagine qu'il y en a qui vont dire, c'est plus réel, c'est plus difficile, c'est finalement plus logique et mieux. Moi, je trouve ça juste chiant, personnellement. Par rapport au temps de jeu que je vais avoir, ça va un peu me fatiguer, ce genre d'affaires. Pareil, quand tu es sur le cheval, je trouve que diriger le cheval n'est pas simple. Alors, peut-être parce que justement, ils veulent montrer ce côté d'inertie cette difficulté à orienter pendant que quand tu vas vite. Mais je reprends un Horizon Zero Dawn, quand tu montes sur une des bestioles, t'as pas cette difficulté. Tu sens cette inertie,
Carrément.
Mais au final, tu peux quand même avoir une maniabilité que je trouve bien meilleure que là avec le cheval. Parce que notamment, des endroits où t'as un petit peu de dénivelé, où le sol n'est pas égal, c'est quand même limite une horreur, quoi. Donc il y a plein de bonnes idées, il y a vraiment plein de choses à faire, upgrader son équipement, parce qu'au final tu peux
oui, mais ça me saoule aussi.
En fait, tu vas avoir tes équipements, puis après tu vas découvrir les fontaines des fées en échange de d'ingrédients, etc. Et bon, vont permettre d'augmenter tes équipements en protection pour que tu puisses combattre des gros ennemis. Parce que des gros ennemis, il y en a qui se baladent. Enfin, si tu veux du défi, il y a des gros ennemis qui sont à certains endroits, ils te balancent trois flèches électriques ou trois flèches de feu, etc. C'est genres de centaures. Ils sont costauds, quoi. Tu vas avoir aussi des moblins géants qui vont même se servir des troncs d'arbres comme d'épée, quoi. T'as la possibilité d'arriver en mode furtif pour taper les moblins qui vont être en train de pioncer, etc. Mais il y a de bonnes idées, mais je peux pas m'empêcher de dire que il y a certains trucs qui sont
dommages.
Voilà, je suis des sentiments un peu mitigés sur certaines choses. Et c'est pas dramatique. Franchement, par rapport à la qualité globale du jeu, c'est pas dramatique. Mais comme on m'avait vendu un jeu extraordinaire, du coup, chaque petit point qui me retient un truc, je suis putain, fais chier. Alors que sur un autre jeu, ça passerait comme une lettre à la poste. D'accord. Parce que je lui dis, ouais, mais au final, c'est pas grave parce que le jeu, il est quand même pas mal.
Ouais.
Et voilà, moi, ce jeu est vraiment bon.
Ouais.
Si je dois en conclure là-dessus, ce jeu est vraiment bon. Il y a vraiment plein de choses. On peut y passer énormément de temps. J'ai passé 30 heures et à mon avis, j'ai encore énormément de choses à faire. Et en plus, alors que j'ai de l'aide d'un copilote. Mais cela dit, il n'est pas aussi extraordinaire qu'on a bien voulu me le vendre. D'accord. Il a des défauts. Ces défauts ne sont pas graves au vu de la qualité générale du jeu. Mais il n'est pas parfait.
Ok.
Et voilà. Et que si on veut y jouer, il faut s'attendre à un jeu qui peut avoir des défauts. Et puis voilà. Puis en soi, c'est pas grave. Mais on peut pas dire que ce jeu est parfait. C'est pas vrai. À mon sens, c'est pas vrai.
Ok. Bon, tu m'as toujours pas convaincu, mais bon. On verra. Non, mais je pense que à un moment, ma fille y passera. Mais voilà. Parce qu'il faut bien passer par un Zelda un jour.
Typiquement, y a mon fils donc de 8 ans, il joue. Ouais. Donc il est dur pour lui. Hein, sans déconner, il y a des passages qui sont pas simples. Hein.
Ouais.
Donc le côté énigme.
Oui, mais c'est pas des passages obligés.
Balader, etc. Plus ou moins de temps en temps, parce que les donjons sont pas simples. Enfin là, ne serait-ce que pour aller chez les Gorons, il dit mais comment je fais ? J'y vais, je brûle, j'ai pas le temps d'arriver, j'ai des potions, mais où est-ce qu'on fait les potions ? Je sais pas, il faut que tu redescendes. Il faut que je fasse tout le chemin en sens inverse. Est-ce que t'as déjà été au relais là ? Tu dois pouvoir téléporter. Je fais non, j'y suis pas allé. Je fais non, il va falloir que tu retournes, quoi. Là, tu vois dans ses yeux, tu te diras.
Ouais. Et là, il fait vas-y, prends la manette, vas-y, je me casse.
Mais c'est limite ça, parce qu'on lui autorise 2 heures de jeu, deux heures maximum par jour.
Ouais, donc, et en 2 heures, tu vas d'un point A à un point B, voilà.
C'est ça. Donc, ça peut s'avérer frustrant, quoi.
Ouais, ok. Bon, ok. Donc, c'est Zelda Breath of the Wild et ça coûte trop cher. J'ai même pas regardé.
Il a pas descendu en prix. Après, encore une fois, malgré les petits points là qui me gênent, il est beau. Et c'est quand même un très bon jeu. Hein, soit on est d'accord là-dessus.
Ouais.
Il a un temps de jeu qui est à mon avis immense. Il y a tout plein de subtilités que je trouve très sympa. Et il est beau. Il est beau, c'est certain.
Il est beau, c'est 50 euros. C'est à peu près 50 euros, entre 45 et 50 euros. Voilà, ok, il ne nous reste plus qu'à nous dire qu'on va se retrouver le mois prochain, ou alors dans d'autres émissions, hein, comme Papa à quoi on joue, avec Médoc El Médoc, donc Mehdi, Mehdi Campras de No Life, avec qui on a pas mal rigolé. Donc ce mois-ci, vous pouvez retrouver donc Papa à quoi on joue avec Mehdi, et le mois prochain également, mais dans tous les cas... on se retrouve dans un mois pour vous parler. Oh, mais, si tout va bien, si tout continue à bien se passer, je vous parlerai d'Assassin's Creed Origins, qui pour l'instant me plaît. Mais comme c'est un Assassin's Creed, généralement ça me plaît au début et ça finit par m'énerver beaucoup.
Te saouler, truc. Moi, voilà, moi bon. C'est celui, le jeu sur lequel j'ai craqué.
Voilà.
Est-ce que je le cite tout de suite?
Je sais pas. Est-ce que tu veux le dire ou tu veux pas le dire?
Non, je peux pas.
D'accord. On garde la surprise pour le moment.
Ouais, c'est ça.
Bon, on vous dit donc à dans un mois. Faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous. Non, mais non, j'ai oublié toutes les. Ah là là. Mais oui. Donc vous nous retrouvez où? Est-ce que Arnaud, on nous retrouve où? Eh bien sur papapodcast.fr. Sur iTunes, sur earthdisk.at, aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et aussi Google+, c'est incroyable. Vous cherchez Papa Podcast ou Papa à quoi tu joues, on est au moins là. Et parfois même quand je cherche sur les internets, on est aussi ailleurs. Et des fois je me demande pourquoi on y est. Mais voilà, c'est des trucs qui se font tout seuls, qu'est-ce que tu veux. En attendant, là, pour de vrai, on se retrouve le mois prochain et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous.
Ciao.